Vous écoutez Radio France Internationale, il est 18h, ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mardi 12 novembre. Bonsoir à tous, c'est parti pour la session soirée de l'info sur RFI, on compte sur vous, on vous emmène pendant 3 heures. Au programme, eh bien ce soir c'est mardi politique et l'invité sera le porte-parole du Rassemblement National, Andrea Cotara, qui répondra aux questions de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière. Puis ce sera l'heure du débat du jour où nous évoquerons le Trump 2024 face au Trump 2016. À savoir, 6 jours après la victoire du candidat républicain, eh bien, à quel mandat est-ce qu'il faut s'attendre? Quelle différence par rapport au premier mandat de Donald Trump, alors que les nominations au sein de la future administration se multiplient? Rendez-vous donc dans 30 minutes sur RFI. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir. À la une, le Hezbollah qui affirme avoir lancé des missiles sur une base militaire israélienne au sud de Tel Aviv. 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition. 19h10 TU, votre session reportage pendant près d'une heure. Accent d'Europe se penchera sur le fléau de la pauvreté infantile avec des reportages au Portugal, des reportages en Irlande et à Strasbourg également dans l'Est de la France. Enfin le grand reportage en Grèce, péril sur Naxos où l'agriculture de l'île est menacée par la sécheresse. Voilà pour le programme, soyez les bienvenus. Et pour commencer, c'est le journal de 18h présenté par Gilles Moreau. Bonsoir Gilles.
Bonsoir à tous.
Et à la une, la pression qui était devenue trop forte, le chef de l'église anglicane, Justin Welby, démissionne.
Oui, sa situation était même intenable depuis les dernières révélations sur un scandale d'agression physique et sexuelle. L'église d'Angleterre est accusée d'avoir camouflé ce scandale qui a fait plus de 130 victimes, essentiellement des garçons mineurs, entre les années 1970 et 2010. Les précisions à Londres d'Emeline Vin.
Je dois prendre mes responsabilités sur le plan personnel et institutionnel, indique Justin Welby dans son communiqué de démission. Le chef de l'église anglicane reconnaît ainsi ne pas avoir suffisamment réagi en 2013 quand il apprend les violences physiques et sexuelles commises par l'aumônier John Smythe sur environ 130 garçons dans les années 70 et 80 en Angleterre, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Un rapport publié la semaine dernière estime que cette inaction a retardé l'ouverture d'une enquête. John Smythe est décédé en 2018 avant la conclusion de celle-ci. En démissionnant, j'unis ma douleur à celle des victimes et des survivants, écrit ce mardi Justin Welby. Les victimes, justement, l'accusaient d'avoir tenté d'étouffer l'affaire et de minimiser leur souffrance. Depuis la publication du rapport, elle réclamait son départ. L'archevêque de Canterbury a d'abord rejeté cette possibilité. À la mi-journée mardi, une pétition pour sa démission rassemblait 10 000 signatures, pétition soutenue par une partie du clergé. Le primat d'Angleterre aurait dû prendre sa retraite d'ici 2 ans. Les modalités de son départ, en particulier la date, restent à définir. Emeline Van Londres, RFI.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est envolé pour Bruxelles où il aura des entretiens d'urgence avec les Européens. L'administration américaine sortante essaie d'accélérer l'aide à l'Ukraine avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. En Russie, la répression sévit contre toute forme d'opposition. La justice a ainsi condamné à 5 ans et demi de prison une pédiatre de Moscou. Elle avait été accusée par la mère d'un patient d'avoir critiqué l'assaut russe en Ukraine lors d'une consultation. En France, le difficile parcours au Parlement du projet de budget 2025. La partie recette vient d'être soumise au vote des députés dans une version très largement remaniée par rapport au projet initial du gouvernement. Le non l'a emporté, 362 voix contre, 192 voix pour. Ce sont les voix de la gauche. Le texte va maintenant partir au Sénat dans sa version initiale. Direction maintenant l'Espagne, 2 semaines après les inondations catastrophiques dans la région de Valence. Les équipes de secours continuent de rechercher 32 personnes portées disparues. La tragédie occupe aussi le terrain politique, même si le gouvernement de Pedro Sanchez souhaite repousser à plus tard le débat sur les responsabilités dans cette catastrophe. Explication à Madrid de François Musso.
Priorité aux parents des victimes, à ceux qui recherchent les gens disparus. Priorité aux aides logistiques, aux travaux de nettoyage des rues envahies par la boue et la ferraille de quelques 120 000 véhicules détruits par les inondations. Tel est le discours du chef du gouvernement Pedro Sanchez ces derniers jours, mais c'est un discours qui commence à prendre l'eau aussi. Tout d'abord parce que des milliers de gens affectés manifestent leur colère car ils se sentent seuls, désemparés lorsque les secours ne sont pas arrivés. D'autant que des activistes complotistes d'extrême droite attisent leur ressentiment avec de fausses informations. Ensuite parce que l'opposition de droite accuse le pouvoir en place de ne pas avoir pris plus tôt les rênes des secours et des aides. Enfin parce que les médias ont, eux, entamé déjà le débat sur les responsabilités réciproques, en particulier celle du président régional libéral Carlos Masson qui, le 29 octobre, le jour fatidique, avait réagi très tardivement à une tragédie évidente. Un Carlos Masson qui a déjà annoncé un remaniement de son exécutif, une façon indirecte de reconnaître ses torts. François Musso, Madrid RFI.
On connaît la date des prochaines élections législatives en Allemagne, ce sera le 23 février prochain. Des élections anticipées provoquées par l'éclatement de la coalition au pouvoir dirigée par le chancelier Olaf Scholz. Au Liban, des frappes israéliennes ont visé ce matin la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Auparavant, l'armée israélienne avait appelé la population à évacuer une partie de cette banlieue. Israël exclut tout cessez-le-feu au Liban tant que ses objectifs n'auront pas été atteints. L'armée israélienne, par ailleurs, annonce l'ouverture d'un nouveau point de passage pour l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, le point de passage de Kisoufim. Son ouverture intervient avant la date butoir fixée par les États-Unis pour qu'Israël permette l'augmentation de l'aide aux Palestiniens. La grande conférence climat a commencé ses travaux. Pays hôte de la COP29, l'Azerbaïdjan défend le droit des États à exploiter leurs ressources pétrolières et gazières. Son président l'a dit à l'ouverture du sommet de Bakou, en assumant son expression « cadeau de Dieu » pour désigner les hydrocarbures qui font la richesse de son pays. Cette conférence reçoit la visite de seulement deux dirigeants du G7, l'italienne Giorgia Meloni et le britannique Keir Starmer. Ce dernier dévoilera demain ses nouvelles ambitions en matière de réduction des gaz à effet de serre. Le Premier ministre travailliste entend mener la bataille sur le terrain des investissements verts. Explication de Daniel Valot.
L'élection de Donald Trump est peut-être une mauvaise nouvelle pour les défenseurs de l'environnement, mais pour Keir Starmer, elle constitue une opportunité. Car, aux yeux du Premier ministre britannique, si Washington se retire des accords de Paris et réduit ses investissements dans les technologies vertes, le Royaume-Uni pourra en profiter pour s'imposer dans la filière des énergies renouvelables. C'est en substance le message délivré par Keir Starmer dès son arrivée à la COP29.
Il est crucial que le Royaume-Uni montre la voie en matière de climat. C'est un défi majeur de notre temps, mais c'est aussi la plus grande opportunité en matière d'emploi pour la prochaine génération, comme en témoigne d'ailleurs le fait qu'ici, à la COP, j'annonce ce matin un investissement d'1 milliard de livres dans l'énergie éolienne.
Keir Starmer veut développer l'industrie, mais aussi la finance verte. C'est là que les investisseurs veulent mettre leur argent aujourd'hui, a-t-il déclaré à son arrivée à Bakou. Là encore, l'élection de Donald Trump pourrait aider Londres à capter des financements. Le candidat républicain ayant, durant la campagne électorale, qualifié d'arnaque écolo, le paquet d'aide financière adopté par Joe Biden pour soutenir la transition.
Et tandis que les discussions de la COP29 ont été lancées, Shell, de son côté, obtient un gain de cause en appel contre une décision de la justice des Pays-Bas. Les ONG plaignantes estimaient que le géant des hydrocarbures n'en faisait pas assez pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le jugement historique rendu il y a 3 ans qui allait dans ce sens s'est annulé. Agnieszka Kumor.
La cour d'appel estime que les recours des ONG ne peuvent pas être acceptés. Et ce parce que Shell est déjà sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de réduction de ses émissions de CO2. Surprise et frustration des groupes de défense du climat, dont Greenpeace, ainsi que Milieu Defensi, branche néerlandaise des Amis de la Terre. Ils estiment qu'au contraire, le géant anglo-néerlandais a rétropédalé ces derniers mois sur certains de ses objectifs climatiques, mettant davantage l'accent sur le pétrole et le gaz pour doper ses bénéfices. Côté Shell, en revanche, c'est la satisfaction. En 2021, le groupe pétrolier avait rejeté la décision de justice lui ordonnant de réduire drastiquement ses émissions d'ici à la fin 2030. L'affaire connue sous le nom « Le peuple contre Shell » avait été portée devant la justice par les ONG. Plus de 17 000 citoyens néerlandais s'étaient également constitués partie civile.
En bref, avant de conclure, 35 morts, 43 blessés, bilan très lourd en Chine où une voiture a foncé sur la foule. Enfin, victoire électorale travailliste aux législatives à Maurice, état insulaire de l'océan Indien. Le Premier ministre sortant a reconnu sa large défaite et le chef de l'opposition, Navin Ramgoolam, a revendiqué la victoire de sa coalition à ces élections. Très bonne fin de journée sur RFI, à suivre sur RFI et France 24, mardi politique.